L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Louise Gedge. Elle vient de remporter le prix Céjal 2026. C'est pour cela que ça a attiré notre attention aujourd'hui sur son travail. Le prix a été remis pour son mémoire autour du convoi 64, son travail de recherche sur les déportés, un travail colossal sur les déportés de ce convoi. Louise Gedge, bonjour.
Bonjour.
Alors, présentation rapide. Vous étiez étudiante après une licence en archéologie. Alors, à l'Université de Strasbourg, c'est aussi important de le dire. Après une licence en archéologie, vous avez préparé un master en histoire contemporaine en lien avec votre intérêt pour l'histoire de la Shoah. Et plus précisément, après, on y viendra, le convoi 64. Ça a commencé avec un portrait, le portrait de Pierre Boer, qui était un des déportés de ce convoi 64. Racontez-nous comment est-ce que vous avez commencé à faire le portrait de Pierre Boer, de ce convoi, et l'intérêt pour l'ensemble de ce convoi, et qui comptait 1000 déportés, dont 156 enfants, et vous avez fait le portrait de chacun de ces déportés. Très peu sont revenus, hein. Je crois qu'il y a moins de 100 personnes, 79 déportés sont revenus. Les autres ont tous été assassinés à Auschwitz. Alors, on va commencer par le début, évidemment. Donc, Pierre Boer, c'était dans le cadre de votre licence ?
Oui, c'est ça. J'ai intégré le journal de la faculté en arrivant en licence d'archéologie et je m'intéressais déjà à toute cette histoire-là. Et donc Pierre Boer, c'était une personne sur qui j'ai voulu écrire pour le journal de la faculté dans lequel j'étais. Je voulais mener une enquête et essayer de retrouver la trace de quelqu'un qui était un peu comme nous, qui était étudiant. Enfin, il n'était pas étudiant, mais il avait l'âge, notre âge, 20 ans. Il était en Alsace, il est né à Saverne et il vivait à Strasbourg avant d'être envoyé en Dordogne pendant l'évacuation. Et donc j'avais envie de faire ce travail-là, de retracer sa vie et de pouvoir partager ça. Et très vite, je me suis rendu compte, parce que j'ai essayé de rechercher sa famille, qu'il n'y avait plus grand monde. Et donc ça m'a donné encore plus envie de remettre en lumière ce portrait qui avait été totalement oublié, puisque son père est décédé lorsqu'il était jeune et sa mère n'a pas eu d'autres enfants et n'a pas été déportée, mais est décédée en 1978 à Mutzig. Donc j'ai voulu faire ce travail-là pour ça. Et ce travail-là a mené justement à tout le reste du convoi, parce que j'ai beaucoup aimé faire ça. Je me suis sentie bien de faire ça. Enfin, j'ai apprécié ce travail et j'ai voulu en faire plus. J'avais l'impression que ce n'était pas assez. Donc j'ai poussé et j'ai agrandi au convoi entier.
Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, en tant que jeune fille? Alors là, aujourd'hui, vous avez à peine 25 ans, presque 26 ans, mais vous aviez, c'était pendant l'année de l'écriture de votre mémoire. Qu'est-ce qui motive une jeune femme à l'écriture de déportés, morts en déportation? C'est la transmission de la mémoire, c'est votre curiosité personnelle?
Il y a plusieurs choses, je pense. Oui, il y a une envie de transmission, surtout pour sur ces 1000 personnes. Il y en a beaucoup qui n'ont plus de famille et qui ont été oubliées, mis de côté. Et donc, il y avait une envie de remettre tout ça en lumière, de pouvoir leur rendre justice d'une certaine manière. Il y avait une envie de transmission, de rétablir aussi les faits, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... comme il y a peu d'archives, certaines ont disparu, ont été brûlées, il y a quand même des choses qui manquent. Et j'avais envie justement de corriger ça. Par exemple, le nombre de survivants officiellement, comme il n'y avait jamais eu d'études vraiment spécifiques du convoi en tant que tel. Il était de 78, je crois, et dont une femme rescapée. Et après mes recherches, justement, je me suis rendu compte qu'il y en avait plus. Peut-être qu'il y en a encore plus, j'ai peut-être pas tout trouvé. Mais je suis arrivée à 83 survivants, donc quand même 5 de plus, dont 3 femmes, dont j'ai pu retranscrire les parcours. C'est une question la question des femmes est très compliquée parce qu'on a très très peu de traces d'elles après leur arrivée dans les camps. Il n'y en a que 72 qui sont sélectionnées et on a très peu de documents qui expliquent où elles vont, ce qu'elles font et ce qui se passe vraiment pour elles. Et donc j'avais justement envie de comprendre vraiment tout ce qui s'était passé, de le mettre en lien avec tout un contexte historique qui est très précis, parce que même s'il y a eu plein de convois de déportation, chaque convoi s'inscrit en fonction du mois, de l'année, dans des contextes précis. En fonction des gens, où est-ce qu'ils sont arrêtés, ça raconte des choses aussi. Et donc c'était cet intérêt pour tout ça, le fait de pouvoir comprendre, de pouvoir transmettre et expliquer tout ça le mieux possible, le plus justement possible.
On parlait de quelques enfants, 156 enfants précisément, qui faisaient partie du convoi, pas de survivants.
Si, il y en a eu. Le plus jeune a été déporté à 12 ans et il a survécu. Il est décédé malheureusement en 2024. J'ai pas eu la chance de le rencontrer. Non, mais j'aurais bien voulu, mais je m'y suis pris trop tard. Mais donc c'est le plus jeune. Après, il y en a peu, il y en a très peu. Et puis après, plutôt des jeunes entre 20 ans et entre 20 et 30 ans principalement, et quelques personnes plus âgées. Le plus âgé, il avait la fin de la cinquantaine.
Alors qu'on voit 64, en faisant quelques recherches dans la préparation de cette interview, j'ai vu qu'il y avait déjà eu quelques travaux de mener dans le but de renseigner, jamais de votre façon, avec évidemment le portrait des 1000 déportés. Qu'est-ce qu'il a de, j'allais dire, presque peut-être d'insolite ou de remarquable, ce qu'on voit là, par rapport à un autre ?
Il a rien d'insolite, mais il s'inscrit quand même dans une période où on est au milieu de la période de déportation, donc le 7 décembre 1943, c'est la date du départ. Et donc, il montre aussi à quel point la déportation s'est rationalisée, s'est mise en place. Et donc, par rapport à ça, au niveau de scientifique, de l'historien, c'est quelque chose qui est intéressant, de comprendre vraiment comment ça se passe. Et de plus, depuis l'été 1943, c'est Louise Brunner qui est à la tête de Drancy, et c'est plus les forces françaises collaborationnistes. C'est un développement qui se fait. Il y a un changement vraiment au camp de Drancy, et du coup, c'était intéressant par cet angle-là d'aborder le sujet, de voir un peu ce qui change, de voir la différence par rapport au traitement de ces personnes-là avant et après. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du tunnel de Drancy qui a été creusé à Drancy justement en novembre, fin novembre 1943. Donc des gens qui ont essayé de s'enfuir et qui a été malheureusement découvert à quelques centimètres, je crois, une trentaine de centimètres de la liberté. Et donc c'est aussi des représailles. Donc à cette période-là, il y a énormément de convois. Le convoi d'avant part le 20 novembre, donc pas si longtemps avant. Et il y en a un qui part, c'est le dernier de 1943, mais il y en a quand même qui partent de manière assez rapprochée. Non, il y en a un le 17 décembre.
Avec un destin qui les amène tous vers la mort à Auschwitz.
C'est ça.
C'est le but, c'est déjà l'extermination de tous ces convois, des juifs qui font partie des convois.
Oui, c'est ça. Et puis on se rend compte que tous ceux qui sont arrêtés, par exemple dans le convoi numéro 64, toutes les personnes qui sont déportées par le convoi numéro 64, à quelques exceptions près, c'est des gens qui sont arrêtés dans les deux semaines en moyenne avant, pas avant, à part pour quelques cas exceptionnels. On arrête rapidement et on arrête pour déporter, alors qu'avant, c'était plus une démarche de on déporte ceux qui ont été arrêtés pour évacuer le camp. C'est un changement de fonctionnement complètement.
Oui, là, c'est Drancy, c'est le convoi, c'est Auschwitz, c'est la mort. Alors qu'à un moment donné, il y avait des camps de travail, il y avait des prisonniers de guerre. Enfin, les choses n'étaient pas aussi industrialisées et à si, si grande échelle. Comment est-ce que vous avez, vous, travaillé, alors, 1000 itinéraires, 1000 portraits de personnes? C'est une façon aussi de leur rendre à chacun individuellement une mémoire qui va rejoindre la grande mémoire de cette triste période, mais c'est une façon de leur rendre à chacun d'entre eux un petit peu d'humanité.
Tout à fait. Au départ, je suis partie, avant même de faire mon mémoire, j'ai créé un site internet où j'ai partagé justement des biographies en essayant de retracer les chemins de ces personnes-là. Et puis au fur et à mesure, ça s'est transformé en un travail plus académique. Et donc je suis partie d'une base de données où j'avais une ligne par nom avec toutes les informations biographiques de la date de naissance, pays de naissance,
Que vous aviez trouvé aux archives ?
Oui, c'est complété en croisant différentes archives, notamment les archives du SHD, du Service historique de la défense de Caen, puis toutes les archives départementales, des départements concernés par les arrestations notamment, les archives de naissance, donc des villes de naissance. J'ai pas pu compléter avec toutes les archives qu'il aurait fallu parce que j'ai pas eu le temps, mais je pense que c'est un travail qu'il faudrait faire pour être vraiment le plus méticuleux possible. Mais c'est un travail de croisement de données, croisement de sources, des contacts avec les familles. J'ai essayé de retrouver les familles, de leur demander des informations, des photos, des documents. Ils ont aussi beaucoup de documents, j'ai pu comme ça retrouver des lettres. Grâce aux archives de Yad Vashem aussi, j'ai eu des informations. Et c'est Archives nationales aussi. C'est en croisant tout ça que j'ai pu remplir petit à petit ce tableau de 1000 lignes et d'une 70 colonnes avec toutes les informations justement pour avoir une ligne qui correspond vraiment au parcours et à la biographie de chacune des personnes, pas rédigée mais dont j'ai pu me servir pour justement faire des cartes, des statistiques et comprendre l'ensemble de ces personnes-là.
Parce qu'un mémoire, c'est la rédaction. À la fin, combien de pages vous avez rédigées ?
J'ai fait 337 pages.
337 pages sur ces 1000 destins avec tout un tas de documents. C'est pareil, vous avez documenté 1000 photos qu'on a mis à votre disposition ?
Oui, j'en ai mis une partie, pas tout, parce que ce n'était pas le travail demandé non plus. Mais les documents que j'ai utilisés et qui me paraissaient importants de voir pour comprendre, oui, je les ai mis ou sourcés dans le travail.
Comment est-ce que vous avez été accueillis par les descendants, les familles ou certains proches de déportés? C'est quelque chose, c'est un album photo souvenir qu'il rouvre facilement. Vous avez senti qu'il y a peut-être une réticence aujourd'hui à revenir sur ce passé douloureux?
Principalement, j'ai eu des bons retours, des gens qui avaient envie justement de remettre en lumière, de donner de l'importance à ces personnes disparues. C'est arrivé quand même que j'ai des personnes réticentes ou alors une personne qui était très, très engagée, qui voulait vraiment partager des choses et quelqu'un d'autre dans la famille qui ne voulait pas parce qu'il ne me connaissait pas, parce qu'il ne voulait pas revenir sur cette histoire-là. Donc il y a eu des petits conflits un peu familiaux parce que c'est un sujet sensible, dont, parfois tabou dans certaines familles, dont beaucoup de gens ont du mal à se remettre normalement. Mais en général, j'ai quand même réussi à avoir ces informations-là. Et puis les gens suivent de près ce travail-là, ont envie de lire mon mémoire, de voir les avancées, de vraiment suivre ça. Et ils sont contents que quelqu'un s'occupe de ce travail-là, sur ce qu'on voit.
Alors vous le disiez, un passé qui peut être douloureux pour certaines familles. Vous, dans l'accueil, dans l'écriture, dans le travail autour de ces destins-là, vous avez évidemment travaillé, vous avez ce recul presque journalistique ou de recherche sur ce sujet-là, mais vous avez été touché par l'un ou l'autre quand même de portraits, de destins de ces gens fauchés par ce terrible tournant de l'histoire, de notre histoire. Et est-ce qu'il y a quelque chose, vous, qui vous a touché plus qu'un autre? Vous avez des fois, même si vous le vouliez, pas forcément pris le recul et vous avez emporté et vous portez la mémoire de l'un ou l'autre?
Bah déjà, celle de Pierre Bauer, qui j'ai travaillé en premier, pour qui j'ai une grande affection, même si je ne le connais pas. Mais après, oui, il y a 156 enfants, donc dans ce qu'on voit, ce qui est le deuxième qu'on voit avec le plus d'enfants de l'année 1943, donc ce qui est énorme. Et donc forcément, quand on a des enfants, qu'on voit que les plus jeunes du convoi, c'était deux sœurs jumelles de même pas de quelques mois, de trois mois, même pas deux mois, je crois, deux mois et demi, qui ont été déportés donc sans retour. Et quand on retrouve aussi les photos des enfants, donc j'en ai en tête là des photos d'enfants sur qui j'ai pu travailler, donc avec des têtes d'enfants quoi, qui sont adorables. Sinon oui, après j'ai l'impression d'avoir vraiment eu un moment avec chacun d'entre eux, parce que je connais quasiment tous leurs noms, je connais leurs visages, pour ceux pour qui j'ai réussi à avoir des photos. Et donc j'ai une attache qui s'est créée avec chacune de ces personnes-là. Et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de faire le plus possible, de pouvoir retracer le mieux possible leur vie.
Et un avant, un après pour vous?
J'ai une formation de vidéo aussi à côté et j'aimerais bien réaliser un documentaire sur ce qu'on voit. Je ne sais pas encore exactement comment je vais le construire, mais j'aimerais bien l'axer sur le côté recherche et justement avoir des interviews avec les familles, pouvoir développer ça. Ça, c'est un vrai projet que je suis en train petit à petit de monter. Et puis, j'ai envie d'écrire des articles, j'ai envie d'en parler. Donc, j'aimerais bien le faire au maximum, en fait, et puis continuer ce travail-là. Ce n'est pas parce que j'ai fini ce mémoire que je vais m'arrêter ici. Affaire à suivre, mais j'aimerais bien continuer à pousser ça. Et je sais qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas eu le temps d'aborder dans ce travail-là qui mériterait de.
Et vous avez encore envie de vous plonger dans ce travail-là. Aujourd'hui, votre mémoire est rédigée. Vous m'avez dit, il est en passe d'être édité et consultable. Ce sera sur un site, j'imagine.
Oui, il n'est pas édité par une maison d'édition classique, mais il est mis à disposition du public. librement sur une plateforme, sur la plateforme du CNRS Halle-Dumas, du coup, pour les mémoires. Donc ça, ça devrait arriver dans les jours ou petites semaines qui arrivent.
Et vous, quelle est aujourd'hui votre activité? C'est toujours en lien avec des travaux de recherche sur cette histoire-là?
Mon activité professionnelle, elle n'a rien à voir. Je travaille dans l'édition, mais pas du tout liée au convoi. Par contre, j'ai vraiment l'envie de continuer. Donc j'ai vraiment un jour par semaine où je m'adonne à ça, où j'ai des articles à faire et où je prépare justement, j'envoie mon mémoire, je communique avec les familles, j'essaye de pousser ce travail-là, j'avance sur le documentaire. J'ai vraiment un jour dans la semaine qui est dédié à ce travail-là et c'est important pour moi de le garder et de continuer la recherche parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment. C'est vrai que c'est compliqué de trouver forcément du travail là-dedans, mais j'ai pas envie d'arrêter pour autant, donc je continue.
Louise Gadge, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ?
De continuer, d'arriver au bout de mes projets, de mon documentaire, de pouvoir trouver d'autres familles et d'avoir des contacts justement pour continuer ce travail le plus possible.
Vous restez sur le convoi 64 ou est-ce que vous avez envie d'élargir à d'autres peut-être déportés qui auront connu aussi une fin tragique ?
Peut-être élargir plus tard, mais je préfère dans un premier temps vraiment aller au fond de chaque chose et de comprendre toujours plus cette histoire-là. Mais je ne dis pas que je ne travaillerai pas sur notre convoi à l'avenir.
Vous êtes rendu déjà justement sur les lieux, au camp d'extermination Auschwitz par exemple ?
Auschwitz jamais, mais c'est un projet, j'aimerais bien y aller pour comprendre encore mieux. Mais pour des camps en France, parce qu'avant d'être internés à Drancy et puis déportés à Auschwitz, ils ont été pour certains internés dans d'autres camps en France comme Rivesaltes, Kurs. Et puis un chantier forestier aussi où on travaillait une soixantaine de déportés de ce convoi qui est à Clé, enfin qui est dans l'ancienne commune de Clé dans le Maine-et-Loire. Et donc là, je m'y suis rendue notamment pour consulter les archives, mais aussi je suis allée sur les lieux et puis à la rencontre des familles un petit peu, retrouver les appartements. Enfin, c'est pas forcément les mêmes bâtiments, mais les adresses de certaines personnes. Il y en a ici à Strasbourg que j'ai retrouvé. Et donc j'ai fait un petit peu ce travail-là, mais pas encore à Auschwitz.
Louise Gadge, merci infiniment d'être venue nous parler de ce mémoire autour du convoi 64. Puis félicitations pour ce prix, le prix Ségal 2026. Qu'est-ce qui vous amène, lui, en particulier ?
Déjà, de nouveaux contacts aussi pour en parler, pour pouvoir avancer sur ce travail-là. Et puis, ça me touche beaucoup. Je suis contente que ce travail soit écouté, intéresse et puisse faire parler de lui. Donc, je suis très reconnaissante.
Louise Gadge, merci à vous.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.